Internet est un outil qui nous permet aujourd'hui de redonner un autre sens, de redonner le sens étymologique, en fait, le mot démocratie, le pouvoir au peuple, le peuple qui aide le peuple, et au-delà des associations, au-delà des institutions qui font un travail indispensable, il y a une nouvelle forme d'action qui est faite. Elle est menée par des hackers, par des activistes, tout simplement par des citoyens. Je ne voulais pas intituler le talk « Citoyens et démocratie » parce que ça aurait été tout de suite moins intéressant, je pense. Mais au final, on parle de ça, on parle de citoyens qui en aident d'autres, de citoyens qui reprennent leur voix dans la démocratie. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Hawking, qui nous vient de France. Vous ne connaîtrez pas son prénom, si vous le demandez après, il vous le dira peut-être. Tout simplement parce que son identité importe peu. Ce qui importe, c'est vraiment ce qu'il fait dans le cadre de Télécomics, ce qu'il fait à titre individuel aussi, en tant que citoyen. Télécomics, pour ceux qui ne connaissent pas, est un groupe, appelons ça comme ça, d'activistes internationaux qui a travaillé notamment à remettre en Syrie, en Tunisie, en Égypte, de l'Internet quand il n'y en avait plus, qui a redonné la voix au peuple quand elle a été prise par leur dictature et qui actuellement travaille sur d'autres sujets. Je vous en touchera certainement. Ok, j'en prie.
Bonjour à tous. Je suis de Télécomics, je viens d'Internet, je viens en paix. Et nous construisons des choses. C'est un peu le motto de Télécomics. Je vais, pendant ces 40-45 minutes de discussion, je ne vais pas forcément vous parler de ce que c'est qu'Internet. Vous avez déjà eu plusieurs discussions là-dessus. Je vais en parler très rapidement. Je ne vais pas non plus vous parler que les médias sociaux font la révolution. Je ne vais pas forcément vous parler non plus de tout ce que ça nous apporte Internet au quotidien, puisque la plupart d'entre vous savez déjà une bonne partie de tout ça. Je vais plutôt vous parler d'un côté un peu plus obscur d'Internet, qui va être tout ce qui va être utilisé pour censurer Internet, pour restreindre des citoyens, restreindre des libertés et tuer des personnes. Donc avant d'aller plus loin, une petite introduction rapide sur qu'est-ce que c'est que Internet. En fait, Internet est basé sur ce qu'on appelle des petits actes de gentillesse aléatoire. Alors pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, imaginez que vous êtes dans une soirée, une grosse soirée, il y a plein de monde, il y a énormément de bruit, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas discuter. Vous êtes serré, enfin, vous pouvez parler aux trois personnes qui sont autour de vous, et le bar est là-bas. Si vous voulez une bière, la seule chose à faire que vous avez, c'est prendre 2 euros, commander la bière, demander à votre voisin d'aller demander la bière, pour qu'il fasse passer le message jusqu'au bar, et pour que ça revienne. Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des gens qui vont prendre un risque, celui réel de se faire renverser de la bière dessous, pour le transmettre gratuitement, sans rien gagner, sans rien donner, la bière au suivant. Pendant tout l'événement va durer la soirée, parce que c'est aussi comme ça qu'eux pourront avoir à boire. Internet est aussi basé sur la confiance. C'est-à-dire que ça n'a jamais été conçu pour être un système sécurisé. Ça n'aurait a priori à aucune attaque, à aucune interception. Un ordinateur qui veut faire partie d'Internet, qui fait donc partie d'Internet, fait confiance à tous les autres en partant du principe que la donnée que je reçois est a priori une donnée correcte. Ce n'est pas une donnée qui est là pour m'empoisonner. Ce n'est pas une donnée qui est là pour me faire du mal, et je vais la donner à la personne que ça intéresse sans le lire. C'est un peu comme quand vous envoyez une carte postale par la poste sans enveloppe, et que votre facteur, bah, vous lui faites confiance parce qu'il peut lire la carte postale, mais il ne le fera pas, parce que c'est son métier. Donc voilà, ça c'était Internet, donc c'est quelque chose qui marche bien, super bien, ça existe depuis les années 80-90. C'est un réseau de machines. C'est un réseau de machines qui fonctionne parce qu'il n'est pas fait pour être sécurisé, il n'est pas fait pour authentifier toutes les machines, authentifier toutes les données qui circulent, et donc il est de fait très fragile. Il y a un autre type de réseau qui s'est développé ces 4-5 dernières années, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, utilisés par les activistes, servent essentiellement à trois choses. D'abord, ça sert à communiquer. Un réseau social, ça vous permet de recevoir l'information et de transmettre de l'information, de vérifier que le petit cousin va bien et s'est bien remis de sa maladie, de recevoir des photos de chats mignons, de recevoir ce genre de choses-là. Ça permet aussi de s'organiser, c'est-à-dire qu'un réseau, par exemple, nous, Télécomics, la Coalition du Net, la NURPA, ou n'importe quel groupe de personnes peut utiliser les réseaux sociaux et donc le réseau de machines pour pouvoir s'organiser vers un objectif qu'ils partagent et qui est le leur. Et enfin, ça permet également de s'informer, c'est-à-dire de manière plus générale, en sortant de son simple cadre, de sa simple cellule informative, de recevoir de l'information qu'on n'attendait pas forcément. C'est-à-dire typiquement recevoir, tiens, j'avais jamais entendu parler de ça, je peux me documenter sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à perdre 5 heures sur Wikipédia, à cliquer sur des liens, on enchaîne jusqu'à trouver la connaissance que l'on voulait obtenir. Donc ça, c'est tous les aspects positifs d'Internet qu'on connaît, qui sont utilisés par des activistes. Forcément, comme c'est utilisé par des groupes de gens pour s'organiser, quand on est contre quelque chose, par exemple, on est contre un gouvernement dictatorial, on est contre, contre les 1%, ce genre de choses-là, ça va gêner les instances au pouvoir. Les instances au pouvoir vont donc vouloir faire plusieurs choses, ils vont vouloir contrôler le réseau, qui est par nature incontrôlable. Donc ils vont mettre en place des mesures de surveillance d'abord, savoir qui dit quoi, à quelle heure, quand, où, et pour essayer de recartographier tous les réseaux. Ils vont aussi mettre en place du filtrage, par exemple, comme on peut l'avoir en Chine, en France ou ailleurs, à base de « je ne veux pas que des gens puissent accéder à ce genre d'information-là, parce que je pense que cette information est dangereuse ». Typiquement, on ne veut pas que les gens accèdent à des sites de Copwatch, on ne veut pas que des gens accèdent à des photos de la place Tiananmen avec l'étudiant face au tank, on ne veut pas que tout ce genre d'information-là circule librement. On va monter plusieurs... On continue de monter la mesure, on va pouvoir monter des réseaux dédiés à l'échelle d'un pays. Par exemple, la Chine, qui a construit le Great Firewall of China, a en fait, au final, son propre Internet dédié, où les Chinois restent entre Chinois, ont une information contrôlée qui est relativement coupée du monde extérieur. C'est le cas, par exemple, aussi en Corée du Nord, où il y a très très peu d'Internet. C'est le cas en Birmanie et dans d'autres pays bien connus pour leur valeur démocratique, où on arrive donc dans des réseaux très cloisonnés qui ne communiquent pas vers le reste et qui cassent Internet par définition, puisqu'on ne peut pas... Enfin, c'est comme si quelqu'un mettait un mur dans la soirée et que y a ceux qui sont du bon côté du mur pour accéder au bar et les autres. Et enfin, la dernière mesure qu'on a pu expérimenter récemment dans l'actualité, c'est le blackout. C'est, je débranche Internet parce que ça m'emmerde, j'arrive pas à le contrôler, je comprends pas comment ça fonctionne. Les gens continuent de l'utiliser pour s'informer, communiquer et autres. Et quoi que je fasse, je vais arriver à couper Internet, comme ça a été fait... en Égypte, cet été, ou en juin, c'est un peu confus le temps pour moi. Excusez. Donc, comment toutes ces technologies sont mises en place? En fait, c'est très simple. Il suffit, comme vous l'avez bien remarqué, dans mon super schéma de distribution de bière équitable dans une soirée, suffit d'être un point stratégique pour faire « non, toi, tu n'auras pas de bière ». Voilà, non, je la garde, elle est pour moi. Donc, c'est des appareils relativement simples à mettre en place, qui sont un peu coûteux parce qu'il faut mettre ça à infrastructure pour que ça soit efficace, mettre ça à l'échelle d'un pays. Donc, un pays, c'est 2-3 millions de personnes. Donc, il faut pouvoir gérer tout ce transit-là. Donc, ce sont des équipements dédiés qui sont créés par certaines entreprises, pour la plupart européennes ou américaines. Donc, la plupart sont là. Donc, Area, c'est une société italienne. Cosmos, ils sont français. C'est les leaders en innovation des pays en France. Thales, je ne les présente pas, c'est anciennement Thomson en France. Amesis, qui est une filiale de Bull, toujours pareil en France. On fait beaucoup de DPI en France. Getronix, qui est une holding néerlandaise qui travaille pas mal avec Bluecoat et ce genre d'équipementiers, et qui ont des filiales au Moyen-Orient pour vendre à des États, à la Syrie. Ils ont vendu donc du matériel à Seriatel, donc le fournisseur d'accès Internet syrien. Et Fortinet, qui est une société allemande qui vend pareil selon le même genre d'équipement, des équipements de filtrage, de contrôle et de censure. Il faut bien voir que la problématique ici est que ce sont des équipements à la base qui sont. Enfin, dans la majeure partie des cas, qui sont destinés à des entreprises, à des réseaux. C'est-à-dire que moi, je suis patron de Google, je ne veux pas que mes employés aillent sur Facebook, parce que c'est la concurrence. Donc je vais acheter ce qu'on appelle un proxy filtrant ou un firewall, pour pouvoir empêcher ces personnes-là d'aller sur Facebook, d'aller à la concurrence. Ou je suis une société innovante et je crains qu'ils me volent mes idées, et je ne veux donc pas que n'importe qui aille faire n'importe quoi, donc je vais mettre en place des systèmes de filtrage, d'analyse, ce qu'on appelle le Deep Packet Inspection, pour vérifier qu'eux, ils n'essaieraient pas de faire des choses un peu bizarres en routant des paquets par ailleurs. Donc ça, c'est leur légitimité. Ils disent, oui, mais les entreprises en ont besoin. Alors, il faut savoir que l'espionnage industriel, ça existait avant 90. Il faut savoir que ça existait de tout temps. Donc, 1990, c'est à peu près le début du gros déploiement d'Internet. Donc, ça existait avant 1990. Donc, il n'y avait pas forcément ce besoin de contrôle de l'information. Ou, s'il en avait besoin, il y avait déjà des solutions en place. Donc, sous couvert de vouloir rendre service aux entreprises, ils vont vendre à différents pays, même si c'est sous embargo. Bluecoat a vendu des appareils à la Syrie, alors que la Syrie est sous embargo commercial. Ça ne les empêche pas de passer par une filiale, par une autre entreprise, a priori Getronix, qui, elle, n'est pas une société américaine, puisque c'est une société qui est basée en partie à Dubaï, et qui peut donc vendre légalement, en toute impunité, ce matériel en Syrie, pour que le gouvernement de Bachar el-Assad puisse s'en servir pour superviser l'intégralité du trafic. Area est en train de monter un système un peu plus complexe, avec différents types d'équipements, des équipements fournis par Cosmos, entre autres, avec des systèmes de disques, pour faire ce qu'on appelle du profilage et du data mining, c'est-à-dire récupérer toutes les données possibles qui circulent sur Internet, mais vraiment toutes. Hein. On a récupéré, nous, avec Télécomics, on a récupéré 56 gigas de logs syriens qui correspondent en gros à un mois de surf en Syrie avec tout. Tous les sites, toutes les requêtes qui ont été effectuées. On a l'adresse IP d'origine, l'adresse IP de destination, la requête tapée, les mots-clés de recherche utilisés, le navigateur utilisé, l'heure, le jour. Donc on a la localisation, puisqu'on a l'adresse IP d'origine et que, a priori, le gouvernement syrien et son propre fournisseur d'accès à Internet. Donc ils savent qui a fait quoi à tel endroit. Donc, Areal est en train de monter un système, donc une société italienne, monte un système de ce genre-là en Syrie pour améliorer un peu le processus, qui est encore un peu laborieux, un peu artisanal, on va dire, pour automatiser tout ça avec des automates, avec des super ordinateurs, des super calculateurs. Alors, tout cela est rendu possible parce que les entreprises ne sont pas toutes seules. Il y a aussi des gouvernements. Donc les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils font des textes de loi, ils légifèrent. Ils vont prendre des lois pour pouvoir contrôler Internet, pouvoir contrôler un système de distribution d'informations à double sens. Ces lois, par exemple, ça va être la Hadopi qu'on a eu en France, ça va être la l'OPSI qu'on a toujours en France, on est un peu champion là-dedans. Ça va être aussi, par exemple, ce qui est ACTA, DMCA, Patriot Act, qui sont des textes de loi dont le but est de dire « Oui, mais les gens peuvent faire du terrorisme avec Internet, il faut donc contrôler Internet. Les gens peuvent faire du terrorisme avec une fourchette en plastique, on peut détourner un avion. » C'est pas pour ça qu'il faut interdire les fourchettes en plastique. C'est pas parce qu'on peut tuer quelqu'un avec un couteau qu'il faut interdire les couteaux. Par contre, on peut utiliser Internet pour, a priori, peut-être blesser les gens, les intérêts, donc il faut interdire Internet. Il y a ensuite différents moyens, un peu moins légaux déjà. On arrive sur des états où, en Syrie, on a eu des cas où, ben voilà, je sais que cette personne-là se connecte à Facebook, mais elle n'est pas bête, elle utilise des systèmes de chiffrement, par exemple le HTTPS, ce genre de choses-là. Et donc je ne sais pas ce qu'elle dit. Je ne peux pas récupérer ses logins et ses mots de passe. Le plus simple, comme je sais où elle habite, je vais chez elle, je tape à la porte, bonjour, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, vous allez nous donner vos mots de passe Facebook. Si la personne refuse, elle se torturer relativement longtemps et finit par donner ses mots de passe Facebook. C'est la méthode, si vous voulez casser un code, récupérer la clé privée d'un algorithme quelconque, c'est la méthode la plus efficace. Enfin, voilà, tous les systèmes de cryptanalyse, en 2h30, 3h, c'est plié, c'est réglé. Donc, je vais vous parler de quelques cas pratiques sur lesquels, avec Télécomics, on a travaillé. Alors, on va commencer par la Chine. En Chine, donc, le gouvernement chinois contrôle énormément l'information. A donc monté son propre Internet, sa propre infrastructure. Ils ont leur propre Facebook, ils ont leur propre Google, ils ont leur propre Twitter. Ils ont des systèmes internes financés par l'État chinois qui leur permettent de gérer leur population d'1,5 milliard de Chinois qui sont en plus dans un alphabet différent et qui leur permettent d'analyser tout ce qui se dit. Il y a la Chine, le fonctionnement du firewall de Chine, ce qui fait qu'il y a si peu de personnes qui se plaignent en Chine il y en a quand même un certain nombre, mais en rapport à la population globale de la Chine, c'est basé sur la théorie du lolcat et du fait que Internet a été construit pour du porno. Les gens veulent deux choses sur Internet. Ils veulent voir du porno à 80% du trafic, et sinon ils veulent voir des jolies photos de chats mignons qui font des conneries. À partir du moment où ils pourront voir ça, et tant qu'ils peuvent voir ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire, on va censurer les sites d'information, on va les contrôler. Les gens ne regarderont même pas les sites de médias, parce que c'est de l'information partisane, il n'y en a pas d'information normale. Donc ils ne vont pas la regarder. En permettant aux utilisateurs chinois d'accéder à une partie d'Internet, ou de contrôler la partie d'Internet à laquelle ils accèdent, ils permettent à la plupart des internautes de faire « moi je peux voir ce que je veux voir d'Internet, ça marche bien ». Et il y a la poignée d'activistes, parce que les activistes sont toujours une poignée dans une population donnée, donc il y a la poignée d'activistes chinois de s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas communiquer et de se frotter à des systèmes un petit peu tordus de censure, d'analyse, de coupures franches et autres. En Égypte, on était sur la Tunisie avec Télécomics au début, on a suivi un peu ce qui se passe en Tunisie avec de la censure. D'État, où c'est oui, cet article de loi est interdit, enfin cet article de blog est interdit, donc ils le censurent au niveau des fonctions d'accès à Internet. Nous, on faisait de la recopie de l'article, on le publiait ailleurs, et ça marchait. En Égypte, on a commencé par comme ça, un travail avec Bambuser, qui faisait beaucoup de live stream sur le terrain avec des appareils, des téléphones portables de place tarée, pour pouvoir sortir les informations de l'Égypte tranquillement. Hosni Moubarak trouvait ça moyennement drôle et a décidé de faire un blackout, donc de couper Internet. Alors nous, on s'est trouvé un peu bête pendant 2 minutes, puisque on a besoin quand même d'avoir un minimum d'accès à Internet pour pouvoir récupérer les photos pour communiquer avec les gens sur place. Et donc, on s'est posé, on a réfléchi, on a dit, bon, ils ont coupé quoi d'Internet? Ils avaient coupé les principales fibres optiques, les principales lignes ADSL. Ils ont nous resté le bon vieux modem des années 95, ce qui fait de la jolie musique. Ça tombe bien, en Égypte, ils en ont plein. Nous, on en avait encore quelques-uns. On a branché des deux côtés. On leur a faxé, donc en trouvant des numéros de fax dans les pages jaunes, dans les sites d'annuaires. On leur a faxé les logins et pour pouvoir se connecter en utilisant cet Internet parallèle. Et on leur a permis de pouvoir se connecter, certes, avec un Internet très très lent. Enfin, ça nous parle de 56K. Enfin, non, il y a 8 mégas, 12 mégas, 20 mégas, 130 mégas avec la fibre. Donc, de se connecter à très bas débit et de pouvoir continuer avec cet Internet. Donc ça, c'est en Égypte. On a eu, pendant les périodes de blackout, on a dû avoir à peu près 6 à 7 000 connexions. On ne peut pas en dire beaucoup plus, puisqu'on n'enregistre pas ce qu'on fait, on n'a pas de log, on ne supervise pas les gens qui s'en servent, sinon c'est un peu... Enfin, sinon il y a un risque qu'on vienne nous demander de donner des logs. On n'en a pas, on ne peut pas les donner. Et en Syrie, que je connais un peu mieux, on est quelque part entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Égypte. En Syrie, ils n'ont pas forcément un super niveau technologique. Ils ne sont pas forcément à la pointe de la technologie. Il y a très peu d'Internet, il y a 150 000 adresses IP à peu près en Syrie. Donc 150 000 équipements connectés à Internet en même temps, maximum. Donc c'est un tout petit réseau. On a vu qu'ils ont mis autour du point réseau des points de passage obligatoires, des checkpoints, comme bien sûr les routes classiques partout. Donc ils ont fait des checkpoints. Donc on est obligé de passer par ces points d'accès qui sont généralement chez les connexions d'accès Internet. Et ces checkpoints, ils enregistrent tout. Ils logent tout, on en a sorti plusieurs gigaoctets. Et ils s'en servent, on a pu corréler plusieurs fois, pour aller arrêter les gens, les tuer, les torturer, les passer à tabac, savoir qui fait quoi. Par exemple, ils récupèrent votre mot de passe d'accès à Facebook, donc ils vont aller sur votre page Facebook pour pouvoir publier du contenu pro-Assad. Ils vont récupérer qui est connecté avec vous, donc ils vont récupérer votre réseau, votre organisation, etc. On a commencé par dire aux Syriens de chiffrer, donc d'utiliser SSL, d'utiliser Tor, d'utiliser OTR, toutes ces technologies de chiffrement relativement simples à mettre en place. Alors, mis à part le fait qu'ils ne parlent pas anglais, que nous ne parlons pas syrien, on a quand même réussi à communiquer. Google Translate fait les choses super bien. On a quand même réussi à avoir quelques contacts avec eux, à leur faire installer, avoir quelques contacts anglophones là-bas. Et on s'est aperçu qu'en fait, quand le gouvernement syrien n'arrivait pas à avoir une information, ils utilisaient la bonne vieille technique de la torture. Ils vont chez la personne, ils torturent, ils récupèrent le mot de passe, c'est réglé. Et donc, on est obligé d'aller un cran encore au-dessus de ce qu'on faisait en Égypte, pour fournir une infrastructure parallèle. On est obligé de fournir ce qu'on appelle un darknet, un réseau caché, où on se connecte par différents moyens. Donc, pour ça, nous avons plusieurs outils. J'avais oublié de vous parler de Occupy Wall Street. Donc aux États-Unis, la presse est interdite sur le terrain. La police est impossible. Il n'y a donc pas de sources d'informations officielles. Les sources d'informations officieuses qui existent sont souvent... la police a déjà demandé à Google de retirer des vidéos de YouTube. Alors comme ils ne sont pas passés par un juge, Google a jusqu'à présent refusé. Il y a des demandes d'informations sur Twitter qui sont faites régulièrement. Donc les États-Unis essaient aussi de contrôler le flux d'informations qui sort du mouvement Occupy. Donc voilà, nous avons plusieurs outils à notre disposition, enfin plusieurs types d'outils. On commence par les outils classiques de chiffrement. Donc, pour chiffrer, qu'est-ce que c'est que chiffrer une communication? Quand je parle à quelqu'un, mon texte est en mode clair. Lui, moi et tous ceux qui sont dans la pièce peuvent comprendre ce qu'on dit. Si je veux que juste une personne écoute ce que je dis, on va utiliser le protocole de chiffrement. Donc par exemple, un autre langage, on pourrait parler une langue inconnue de personne. Là, on va utiliser des outils mathématiques parce qu'on est au niveau... informatique, et que l'informatique, ce n'est jamais que des maths, pour pouvoir créer des systèmes que seuls l'émetteur et le récepteur du message peuvent lire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur la ligne voient qu'on communique, d'une certaine façon, mais ils ne peuvent pas déchiffrer ce qu'on dit, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit, donc ils peuvent bloquer, puisqu'ils sont sur la ligne, je comprends pas, je coupe. On peut avoir des outils d'anonymisation aussi, qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des VPN, donc des réseaux privés virtuels. Virtual Private Network en anglais. Ce sont des systèmes en fait qui vont permettre d'encapsuler, de cacher dans un réseau normal, donc Internet, un autre réseau plus petit, connu des seuls participants au réseau, souvent en utilisant en chiffrant à un niveau beaucoup plus bas les communications, ce qui va, par exemple, comme le fait très bien Tor, I2P ou ce genre de choses-là, ce qui va permettre en fait de sortir depuis un point qui paraît aléatoire du réseau. En fait, c'est ce que fait Tor. Tor, il se cache
le protocole de communication dans des couches traditionnellement utilisées par exemple pour surfer sur le web, etc. Pour pouvoir après fournir un point d'accès ailleurs, un point de sortie externe à la personne qui a été connectée. C'est ce qui fait que quand vous utilisez Tor, que vous êtes par exemple en Belgique, vous pouvez très bien tomber sur la page google.jp, parce que Google, vous sortez sur un nœud japonais, Google fait « Ah, vous êtes du Japon, bienvenue chez nous ».
On fournit aussi des identités proxy. C'est pas vraiment formalisé. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand les Syriens nous contactent avec des informations du terrain, avec des photos, avec des vidéos, avec des témoignages écrits, des témoignages audio. Nous, en tant que Télécomics, on va publier. Donc on a plusieurs outils, on a nos différents sites, nos différents flux, on a nos Twitter, on a nos pages Facebook. Donc ça permet en fait à ces Syriens de pouvoir communiquer avec des fausses identités, avec des vraies identités, puisque celle de Télécomics, mais qui n'est pas la leur. Donc on leur prête une identité pour que, au pire, si quelqu'un veut vraiment taper sur la page de Télécomics, c'est chez nous que ça va tomber, je ne sais pas, c'est pas en Syrie. Nous sommes pour la plupart aux États-Unis et en Europe, donc on espère ne pas encore être torturé pour pouvoir donner nos mots de passe. Ce qu'on craint de pire, c'est d'aller en prison, eux, ils risquent de se faire abattre. Et le dernier outil, le plus important pour nous, c'est l'éducation. On essaye de monter des wikis. On a wereboot.eu. On essaye d'apprendre aux gens comment fonctionne l'Internet, comment anonymiser ces données, comment chiffrer ces données, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, pour nous, c'est un des points importants. C'est-à-dire qu'on commence à avoir maintenant en Syrie, depuis 4 à 6 mois qu'on travaille avec des Syriens sur une base régulière, on a trouvé des contacts anglophones, ce qui facilite vachement les choses. On commence à avoir pas mal de Syriens qui ont des bases techniques nécessaires pour pouvoir développer eux-mêmes leurs propres outils, sans que nous, on les connaisse. On commence à vraiment essayer de propager toute cette connaissance qu'on a, parce que c'est important pour pouvoir communiquer en toute confiance et en toute sécurité, à l'abri de tout le monde.
Pardon, mes compétences.
Voilà. Alors, c'était une rapide introduction. J'espère que vous avez plein de questions, pour moi ou pour
l'Alien Par.
Excusez-moi, j'ai oublié ton rappel. Allez-y, faites feu.
Juste un mot rapide, peut-être, pour préciser. Donc, comme je l'ai dit, comme Hawking l'a souligné aussi, une des raisons pour lesquelles il ne connaît pas mon prénom, c'est qu'on a été en contact beaucoup ensemble, via IRC, via des canaux de communication, et on est en contact comme ça avec plein de monde. On n'a pas besoin de savoir qui est qui, juste on collabore ensemble sur des thèmes qui me semblent importants, et quand il s'agit de redonner la parole à des personnes, c'est un thème qui me semble important, qui lui semble important, et donc on travaille ensemble. Je voulais préciser ça parce qu'on entend souvent, dans la presse traditionnelle, parler des Anonymous, on en a entendu parler récemment, parler des hackers en tant que pirates du net, c'est pas ça. Anonymous, c'est pas ça non plus. Anonymous, basiquement, vous l'êtes, je le suis, on l'est tous. C'est simplement le constat qui est de dire qu'on se connecte à Internet pour peu que nous-mêmes ne divulguons pas des informations, on ne peut pas nous identifier clairement. Donc, une personne qui, un jour, est intéressée par un thème, qui se connecte à Internet, qui participe à une action, est Anonymous. Quand vous voyez en reportage à la télévision, on a interviewé à Anonymous, le leader d'Anonymous a été arrêté, c'est faux. C'est un non-concept, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de structure. Demain, soyez Anonymous, demain, participez à Télécomics, c'est la même chose, il n'y a pas de structure. Il parlait de connaissances techniques, les connaissances en traduction sont importantes aussi. Dans le cas de la Syrie, dans le cas de l'Égypte, le principal blocage qu'il y a eu, c'était qu'on ne parvenait pas à communiquer avec les personnes. Donc, vous avez des capacités en traduction, c'est bienvenu. Il y en a d'autres, à plein de niveaux, ça peut être utile. Pas besoin d'avoir des connaissances typiquement en informatique pour pouvoir contribuer. C'est à peu près tout. Pour ce qui est de l'action activiste, il y a vraiment beaucoup à dire. Ça tiendrait en une heure. Je vais peut-être évoquer brièvement le cas de la Tunisie. J'ai travaillé à titre individuel, donc pas pour ne pas sur ça. On a travaillé sur Streisand.me. C'était un outil qui visait à créer du mirroring, comme ce qui s'est passé avec Wikileaks. Il l'a dit, Internet est un réseau qui, à la base, est résilient. Ça veut dire qu'il a été conçu et il est maintenu de telle sorte qu'il ne puisse pas être facilement bloqué ou filtré.
À une échelle globale.
À une échelle globale. Dès qu'il y a du filtrage ou du blocage, on parvient toujours à prendre une autre route pour atteindre la destination. J'en profite pour glisser un petit clin d'œil. Pour l'instant, au niveau politique, on entend beaucoup dire en Belgique, en France, comme il a dit, ce sont les champions, que le filtrage aide, par exemple, à lutter contre la pédopornographie en ligne, contre le partage de fichiers, contre le terrorisme. C'est juste faux. Quand vous filtrez en site web, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, un mois ou quelques semaines sur Belgique avec DeParisBel, vous le cachez juste en fait. Le site DeParisBel est toujours accessible d'ailleurs dès le lendemain. Certaines personnes chez DeParisBel ont recréé un nom de domaine et le site est accessible via ce nouveau nom de domaine. C'est la même chose pour les contenus pédopornographiques. La seule action concrète que ça a, c'est de dire aux pédophiles, une fois qu'ils sont sur le site, que c'est bloqué. Donc ils savent bien que c'est le moment de supprimer tout ce qu'ils ont sur leur disque dur ou de le cacher, de le mettre bien à l'abri, parce que si la police a bloqué le site, c'est que certainement ils vont enquêter, ils vont essayer d'aller voir dans les logs ce qui se passe, etc. Donc pour revenir à Streisand, c'est l'exploitation de ce phénomène de résilience. Si un contenu est bloqué à un endroit, il suffit de le reprendre, de le recopier. C'était une manière de faire ça de façon automatisée. En quelques mois, on a eu des milliers de miroirs. Au début, ça concernait la Tunisie, leurs photos. Les photos que vous avez pu voir dans la presse au début venaient de Télécomics, même si encore une fois, c'est pas une chose, c'est pas un groupe, transitées par nous. Les gens nous les envoyaient en disant, voilà, nous on n'a plus de voix, il n'y a plus moyen de faire circuler l'information. Facebook est bloqué, on a trop peur que pour l'utiliser, donc on vous l'envoie à vous. Faites-en ce que vous voulez. Et nous, on l'a diffusé, on l'a donné aux médias. Voilà. Pour conclure, l'activisme tel que nous le pratiquons, ce n'est jamais qu'une concrétisation de l'acte citoyen. Nous ne sommes pas des dangereux pirates, nous ne sommes pas des extrémistes, des anarchistes. On pourrait juste, à partir d'un moment, il faut redonner le sens au mot démocratie, que le peuple se rebouge un peu, reprenne les choses en main et contribue de manière efficiente au monde dans lequel nous vivons tous.
Une question là-bas. Je vais faire une remarque sur lequel de ce genre de... Enfin, je vais faire un vrai bilan, donc je suis d'accord avec vous, mais l'extrême droite a tout à fait le même discours que vous. L'extrême droite utilise Internet en disant qu'il faut redonner la parole au peuple, que tous les sites reconnus, en fait, cadenassent l'information. Et donc, ce débat-là, vous avez des gens d'extrême droite qui ont vraiment la même chose. Il y a tous les sites d'extrême droite qui disent, nous, on laisse la parole au peuple. Et donc, c'est le discours, quand même, il faut l'enrober dans dire, juste, on donne la parole au peuple. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses.
En 1933, les nazis sont arrivés au pouvoir. A priori, il n'y avait pas d'Internet. Donc c'est pas un problème.
Non, mais je veux faire un faut,
si on ne laisse pas la parole à l'extrême droite, on les place en position de censurer, de victime, et donc on leur donne des raisons de vouloir s'exprimer. Parce qu'effectivement, la seule solution, the only solution to bad speech is more speech. Voilà. La seule solution aux idées qui nous choquent, c'est d'aller combattre ces idées sur le plan des idées, et non pas sur le plan technique.
Et peut-être, juste, je vois que tu vas en venir, pour ce qui est du filtrage et qu'on lutte contre la pornographie, en discutant avec des membres de notre Parlement ou à une échelle européenne, avec des membres de la Commission du Parlement européen, je me suis déjà entendu dire, vous êtes contre le filtrage des contenus pédopornographiques, donc vous êtes pour la pédopornographie. C'est un peu ça. On ne dit pas ça du tout, on est juste que nous, en tant que techniciens, on sait que c'est stupide, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on prône, c'est une collaboration renforcée entre les services de police qui eux-mêmes avouent que ça ne fonctionne pas. C'est eux-mêmes qui disent, s'il vous plaît, pas de filtrage. Il faut que les contenus soient supprimés parce que, comme nous sommes capables d'exploiter la résilience de l'Internet, de mettre en place du mirroring, ceux qui gèrent les hubs, les sites de contenus pédopornographiques sont tout autant capables de le faire. Si on leur supprime leur contenu, ça devient plus complexe. Il faut qu'ils aient un backup, etc. etc. Donc, supprimer plutôt que bloquer. Et c'est parce que, enfin, je ne sais pas si je capte le wifi aussi, mais je pourrais vous montrer ça avec de PilotBay à quel point c'est ridicule. Si vous tapez de PilotBay.org, ça ne fonctionne pas. Si vous tapez l'adresse IP de PilotBay, ça fonctionne.
Ça fonctionne aussi, je crois.
En fait, ils ont ouvert deux pirates, la façon néerlandaise, et ça fonctionne. Donc, mon but n'est pas ici de vous communiquer d'adresse ou site un peu étrange. voilà, on va pouvoir voir.
C'est la première étoile sur Google. Google Belgique, hein, attention. Et voilà. Bienvenue sur The Pirate Bay, ça a été censuré.
Non, là ça fonctionne, je sais pas pourquoi.
Ça n'a pas été censuré par tous les fournisseurs.
Le cas de Pirate Bay, en fait, ils ne sont bloqués que par Belgacom et Telenet. Donc ici, ils n'en sont certainement pas chez eux. Mais si tu vas sur notre Twitter, on a lancé la page de blocage. Twitter.com/pirate.be. Enfin voilà, ça montre à quel point c'est ridicule. Juste pour info, histoire de taper un peu dans l'art, Base en Belgique, suite à l'affaire de Pirate Bay, Base a décidé de sa propre initiative de bloquer de Pirate Bay, alors que la décision de la cour d'Anvers ne portait pas sur eux. C'est une atteinte flagrante à la neutralité du net. Juste, ils se sont dit, c'est une bonne idée, on va le faire, et encore une fois, ça ne sert à strictement rien. Donc voilà, enfin, pour revenir à ce que je disais, quand tu dis qu'il faut enrober ça d'une manière ou d'une autre, donner la personne à tout le monde, je crois pas. Il faut que tous les parties soient. D'accord, c'est juste pour.
C'est dans le discours que vous avez ici, je pense que ça manque un petit peu de. Donc vraiment, on pourrait vraiment retirer et avoir un gros logo d'extrême droite derrière et que le discours ne devrait pas changer. Et donc,
mais je vois pas pourquoi il devrait changer d'ailleurs.
Si, parce que je sais pas comment expliquer, mais je suis d'accord. Il y a pas longtemps, j'ai eu des vagues d'extrême droite sur mon blog, j'ai laissé discuter. Mais quand on présente la chose, il y a quand même, je pense que. Enfin, une chose qui fait peur aux autorités, c'est que c'est eux qui peuvent voir le double discours en fait.
D'accord.
Ils peuvent voir le double discours, il n'y a pas assez de garde-fous, même qui seraient, on va dire simplement, de la parole. Bon, voilà. Comme le discours pourrait être double, je pense que ça fait peur à certaines personnes.
Bon, enfin, en tout cas, à titre personnel, je n'ai jamais été interpellé à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, sur le double discours, le fait que ça pourrait être dangereux d'un niveau que chacun puisse s'exprimer, comme Kin l'a dit, plus il y a de personnes qui s'expriment, plus le débat est animé et ça entraîne un débat contradictoire qui, au fond, n'est jamais mauvais. Donc, voilà.
Je sais qu'au niveau politique, ils trouvent ça problématique.
Par exemple, voilà, pour la question pratique du filtrage, pour en avoir discuté avec nos parlementaires, ce qui pose problème, c'est la considération technique qu'il y a derrière ça. Quand le filtrage de Pirate Bay est ordonné, je pense, le juge a évalué l'impact que ça aurait, mais d'un point de vue technique, l'impact qui en résulte, c'est que c'est juste en affichage. On peut toujours y accéder. De là à dire que la décision est nulle, il n'y a qu'un pas. Voilà. Nicole, tu peux intervenir ?
Oui, je voulais poser la question. Bon, d'abord, c'est vrai que c'est magnifique de voir tout ce que vous avez pu faire par rapport à ce mouvement. Alors, je voulais poser la question, mais par rapport à ici, voilà, est-ce qu'on a les mêmes raisons de se méfier ? Vous avez dit vous-même, on est aux États-Unis, en Europe, on risque la prison, là où on risque la mort. Bon, je ne sais pas, vraiment, dans vos activités, vous risquez la prison, sans doute peut-être par rapport à des Adopi. Mais vous demandez, bon, est-ce que c'est faire preuve d'un optimisme béat de dire, bon, ici, la situation est correcte ? Ou quelles sont les urgences, si on analyse ici, quels sont les risques ? Voilà, sans faire d'amalgame, en disant que les risques sont les mêmes ici que dans les dictatures. Donc comment, où vous voyez les priorités ici, et est-ce qu'on peut dire qu'ici on peut aussi se réjouir du fait que la liberté d'expression est bien garantie et qu'elle est
utilisée. La liberté d'expression n'est a priori pas bien garantie puisque The Pirate Bay est censuré.
Ok.
Voilà. Donc il faut...
Et que, juste pour faire le parallèle, hier, la décision de la Cour européenne de justice est tombée en disant que du blocage ou du filtrage qui portait sur de l'échange de fichiers portait atteinte aux libertés fondamentales.
Ah. Voilà. Donc il faut militer pour un accès à Internet neutre, sans modification, sans aucun appareil de filtrage. C'est-à-dire que ben, moi, quand j'utilise mon téléphone avec ma 3G, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, parce que vu le prix qu'on va me le faire payer en roaming, je ne vais pas le faire, permet d'accéder à Internet et non pas au web. Le web, c'est le www, enfin c'est le HTTP, ça va être le protocole de mail, ça va être ce genre de choses-là qu'on vous fait. Oui, vous avez accès à Internet. Non, on a accès au web. Moi, quand je veux accès à Internet, je veux accès à des ports FTP, je veux accès à des tunnels SSH, je veux accès à tout ce que je veux faire avec Internet. Après, si j'ai pas le droit de le faire, c'est à la loi du pays de me dire que c'est interdit de le faire. C'est pas à la technologie, c'est pas au vendeur de téléphonie de me dire vous avez pas le droit de faire ça. Le vendeur de téléphonie ne devrait pas avoir à légiférer, il devrait juste me faire, tenez, je vous vends de l'accès à Internet. Voilà.
Typiquement,
libre et illimité.
typiquement, en fait, ici, les risques sont bien différents. On employait les termes de torture et de mort. On ne court pas ça comme risque ici.
Si, on a été alors, Télécomics a été menacé de mort suite à ce qu'on a fait en Syrie. Il y a des gens qui nous ont menacé de mort déjà deux fois.
Pas l'État
belge. Non, l'État français, je ne sais pas.
Clairement, ici, les...
Non, la question, alors, c'est parce que vous dites on ne devrait pas faire, et en même temps, vous dites qu'il y a toujours moyen de contourner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner? Il y aura toujours des contrôles frics et des activistes, non? Alors, est-ce que c'est pas un dialogue qui doit se poursuivre?
Par exemple, pour vous donner un exemple, sur le filtrage parental. Moi, je suis pour le filtrage parental. Je suis pour que des parents puissent décider que leurs enfants n'aient pas accès à tel ou tel contenu. Mais il faut que ce soit les parents qui décident du contenu auquel ils n'ont pas accès, et non pas... Orange, SFR, Belgiacom, qui vendent des listes en disant « Oui, faites-nous confiance. » Voilà. Moi, si on me dit « Faites-nous confiance », déjà, je ne fais pas confiance. Ou prouvez-moi que j'ai raison de vous faire confiance. Je ne veux pas que ce soit... Je ne veux pas que l'État prenne le rôle des parents en voulant éduquer les enfants à la place des parents. Si les parents jugent que leurs enfants peuvent accéder à de la pornographie hardcore sur Internet à 4 ans, ok, c'est le problème des parents. C'est pas le problème de l'État. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour ça. Par contre, éduquer les parents, leur dire... Oui, alors Internet, oui, effectivement, il y a des choses étranges qui traînent sur Internet, mais il y a des choses étranges qui traînent dans la rue. On va trouver le meilleur et le pire sur Internet. On trouve souvent très très facilement le meilleur et le pire à peu d'intervalles. Le moyen, c'est un peu plus dur à trouver.
Attends, si tu permets, qui ici est déjà tombé par hasard sur un site pédopornographique? On en est d'accord, ça n'arrive pas. Donc, le pire, il faut le chercher, il faut savoir où le chercher. Ce qui renforce l'idée que le filtrage, au final, ne sert à rien.
Parce que oui, effectivement, on peut trouver des moyens de contournement, mais si on peut éviter de passer des nuits à travailler sur les moyens de contournement et essayer d'avancer sur d'autres problématiques, ça peut être sympathique aussi.
Mais pour le moment, cette volonté de filtrage, tout ça, c'est dans le débat neutralité du net.
Absolument, oui.
Et en fait, c'est un débat plus ancien, qui est porté par toute la problématique du partage des fichiers, de la rémunération des auteurs, parce que depuis des années, on a des industries du divertissement qui ont vu leur modèle de la vente du CD devenir obsolète. Et donc chercher par tout prix un autre moyen de récupérer de l'argent sans rien proposer. iTunes, c'est pas, ça vient pas des industries du divertissement, des sociétés de gestion, de ce que vous voulez. Tout ce qui a été proposé d'innovant a sans cesse été réprimé par la loi, par des initiatives de sociétés de gestion. Je pense à Deezer en France, je pense à Spotify qui arrive seulement en Belgique, alors que ça fait des années que ça fonctionne ailleurs. Voilà. Le problème qu'on court ici, donc je le disais, pas de mort, pas de torture, mais c'est que à des prétextes d'apparence noble, de rémunérer mieux les artistes, on va tomber dans des systèmes de filtrage, de censure, comme ce qui se passe pour l'instant en Belgique avec de Pirate Bay. Le problème qui se pose ici, c'est que le filtrage est technique, donc c'est la machine. On a entré une règle et c'est la machine qui le bloque. Partout où du filtrage a été mis en place, ça n'a toujours été que le précédent pour d'autres systèmes beaucoup plus intrusifs, comme le DPI, le Deep Packet Inspection. Le Deep Packet Inspection, ça consiste à ouvrir tous les paquets et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on fait ça, c'est la machine qui va déterminer quel octet est légal, quel octet n'est pas légal. On donne le pouvoir à une machine d'exercer le rôle du juge. C'est au juge de déterminer si une action est légal ou non, pas à une machine.
Le DPI, c'est l'écoute systématique et la lecture de tout le courrier. Parce que sur un certain internet, moi j'ai mon mail qui passe, bon, même s'il est chiffré, etc. J'ai mon mail qui passe, parce que c'est des choses qui ne regardent que moi et les personnes destinataires de ce mail. Si on met en place des techniques de DPI, de filtrage et d'analyse de contenu, c'est donner la possibilité soit à l'État, soit à la société qui a mis ça en place, de pouvoir faire de l'interception de courrier. Alors, l'interception de courrier, en France, elle est légale dans le cadre de la prison, par exemple. Les prisonniers ont leur courrier intercepté et lu pour différentes raisons de sécurité. Mais ça reste globalement une mauvaise chose. Il y avait une question là.
En fait, vous avez parlé du niveau des lois, mais essentiellement les lois répressives. Maintenant, j'aimerais bien connaître un petit peu les lois qui nous protègent en tant qu'utilisateurs Internet. Parce qu'il y en a aussi quand même.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas énormément. Tu penses auxquelles?
Ce qui protège, c'est la charte
d'expression.
C'est la charte des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression, notamment. Très concrètement, ce qui pourrait faire avancer le débat, ce qui pourrait garantir qu'il n'y ait plus ce genre de stupidité, parce que c'est le terme qui se produisent, c'est qu'on ait une définition juridique de la neutralité du net. La neutralité du net, Benjamin Bayard en a parlé hier, c'est le principe que les opérateurs sont juste des opérateurs. Donc votre fournisseur d'accès à Internet se contente juste de vous mettre sans se soucier de ce qui transite. Le problème, c'est que quand on a la SABAM ici en Belgique qui fait pression pour que le Pirate Bay soit bloqué, et ben, il perd ce rôle de simple tuyau. Il commence, lui, à mettre en place du filtrage. Même s'il lui a été demandé, il le met en place. Il ne devrait pas avoir à faire ça. L'autre problème qui se pose est économique. Ça s'est passé récemment aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, en fait, il faut savoir qu'en général, en Europe, les opérateurs qui proposent du net étaient les opérateurs historiques qui proposaient la téléphonie. La téléphonie mobile aussi. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, KPN, qui est un fournisseur d'accès à Internet, qui vendait de la communication sur GSM, a commencé à voir dans ses statistiques, parce que ça, faire des statistiques, ça, il faut le faire pour le réseau, pour voir le gérer, que la Voice over IP, donc Skype par exemple, commençait à prendre une part importante, et ils ont fait une corrélation avec la baisse de la consommation du trafic GSM 5. Ils se sont dit, ben, c'est ça, on va le bloquer, les gens vont recommencer à téléphoner. Donc ils prennent la décision, eux, en tant qu'opérateurs, de discriminer un service à des fins économiques. Il faut savoir que d'un point de vue technique, Skype consomme moins de ressources sur le réseau que la voix sur GSM. Et que donc, d'un point de vue technique, c'est plus intelligent de laisser les gens communiquer via Skype que via le réseau GSM. Eux se sont bornés à l'argument économique et de dire on perd de l'argent d'un côté, il faut qu'on le récupère ailleurs. Ça a conduit à quoi ? Le Pays-Bas est le premier pays européen qui a inscrit la neutralité du net dans sa législation. En pratique, il reste encore une étape, c'est passé par le Sénat, mais enfin, c'est une modalité. Donc voilà, nous, à la NUPA, en Belgique, on travaille sur ça. On travaille à faire en sorte qu'une diminution juridique de la neutralité du net soit mise en place, parce que c'est nécessaire. Si cette discrimination ne vient pas des opérateurs, elle viendra sans conteste des pressions qui sont exercées. Je parlais du problème de partage de... Enfin, du problème, ce n'est pas un problème en fait. De ce que les industries de divertissement qualifient de problème de partage de fichiers, ça date depuis des années.
Napster, le premier à en avoir fait les frais en 99-2000.
Ouais. Et l'avis ici de la Cour de justice, on attend de l'Union européenne, on l'attendait déjà depuis un moment, donc c'est pas neuf comme débat, sauf que, voilà, pour garantir à chacun la liberté d'expression, il faut absolument garantir cette neutralité du réseau, que les opérateurs se contentent juste de transporter les paquets. Au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de démarche engagée en ce sens. Cette problématique est traitée par le... Oui.
Non, enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais il y a tout un débat sur la neutralité du net. Je pense qu'il faut quand même... Il faut, pour de se donner un maximum de chance, voir tous les atouts que vous avez dans votre temps. Il y a énormément de gens qui pèsent par rapport à cette vision organique et de l'Internet. Au niveau de la déclaration de principe, c'est que la Belgique a une position très ferme pour la neutralité du net. Je ne sais pas si Benjamin a bien fait là ou pas, mais moi j'ai lu des textes qu'ils ont déposés et c'est très clair. Et donc il y a, au niveau de l'affirmation des principes, vraiment la neutralité du net est quelque chose qui est affirmé. Donc je comprends qu'il y a des gens qui argumentent dans un autre sens pour les raisons que tu as dit, mais je pense qu'il ne faut pas faire comme si c'était ni perdu d'avance. Ni pas dans le radar screen de la politique au niveau européen.
C'est
un débat qui va s'ouvrir et qui n'est pas. Je veux dire, les choses, les idées sont pas.
Oui, clairement, je n'ai pas en train de dire que ce n'est pas pris en compte par la politique. On a plusieurs partis qui ont déposé des propositions de loi relatives au net. Elles doivent encore être retravaillées, c'est encore en Belgique. Mais au niveau européen, ce que je soulignais, c'était le manque d'action concrète pour l'instant. Le propos est de dire qu'il n'y a pas un besoin de neutralité du net parce que...
Il n'y a pas d'atteinte à la neutralité du net.
Non, c'est pas ça. C'est de dire qu'en fait, grâce à la concurrence, grâce à la concurrence, grâce à la liberté de changer d'opérateur, il n'y a pas besoin de neutralité. Parce que si votre opérateur fait un truc qui ne vous plaît pas, il vous suffit d'aller ailleurs. Sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. En Belgique, notamment la semaine dernière... TestHA publiait une étude qui montrait que le marché belge était cloisonné à mort. On a le choix très très concrètement entre Proximus ou Belga... euh, entre Belgacom et Mobistar, qui sont les deux opérateurs historiques ici. Donc quand on a une concurrence qui se table sur deux opérateurs, c'est pas de la concurrence. Leur service, ils les échelonnent, ils font plus ou moins la même chose. On peut pas se contenter de dire que la transparence suffit, qu'il n'y a pas besoin de neutralité.
C'est pas une position officielle contre la neutralité,
elle n'est pas contre. C'est juste de dire que pour l'instant, on est là. Je me trompe?
Je crois que oui. Je ne sais pas à quel papier tu fais référence ou quoi, mais au dernier
propos de Nelly Cruz
qui disait qu'on fait un wait and see.
Voilà.
Oui, un wait and see. Mais attends, wait and see, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de la neutralité? Alors il y a pas, mais c'est pas encore. Je pense que c'est pas encore plié.
On n'a pas dit que ça l'était, mais juste ça. Voilà.
Donc moi je voulais vraiment beaucoup apprécier l'exposé et surtout aussi, j'adore cette expression, ce petit geste aléatoire de gentillesse, c'est vraiment très beau. Quand on t'écoute, on a un peu l'impression d'avoir finalement une vie en coulisses, entre guillemets, que nous connaissons sur la scène du net. Donc ces coulisses sont fascinantes. Voilà, enfin, j'avais deux questions par rapport à ce que tu as présenté. La première, c'est que je travaille sur le domaine de la sécurité aussi et je vois que le pouvoir fait naître du contre-pouvoir et le contre-pouvoir fait naître du pouvoir et on est dans une espèce de tu vois, donc on est dans une espèce de course à l'armement, je dirais un petit peu, hein, donc qui me paraît, donc ce que vous faites entraîne des recherches étalées, entraîne des recherches à la SACEM, etc., pour toujours aller plus loin dans le contrôle. Donc je voulais t'entendre un petit peu sur comment vous raisonnez cette escalade. Par ailleurs aussi, comment vous raisonnez aussi, la question dans le FP7, à l'heure actuelle, hein, donc dans le programme européen, il y a toute une ligne d'action sur la sécurité, hein, donc, et il y a des choses qui concernent effectivement des recherches qui peuvent se monter, hein, sur la sécurité du net dans le cadre de justement la lutte contre le terrorisme, etc. Moi, je suis aussi intéressée de voir un petit peu comment on débat tout ça, quel est le rôle de l'Union européenne dans le financement de ce genre de projet. Et puis vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce que je perçois de l'extérieur comme étant parfois une espèce de course à l'armement
Alors, sur la course à l'armement, nous on l'a suivi bien en Syrie parce qu'ils ont commencé sur un niveau technique
très bas.
Hein. On a trouvé des logs, 56 gigas de logs, beaucoup, sur un serveur FTP public, il n'y avait pas de nom de domaine dessus, mais il était public, avec un accès anonyme disponible. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est pas qu'il y avait une mauvaise sécurité, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc ça change, ça augmente. Alors en fait, je pense que cette course à l'armement, on va la gagner. Pour une raison très simple. Toutes les entreprises que j'ai citées, tous les gouvernements font ça parce qu'ils ont une motivation pécuniaire. Nous, on fait ça parce que ça nous amuse et parce que c'est fun. Et qu'on peut passer trois semaines à ne quasiment pas dormir, à se nourrir de café, de maté et de hamburger, à trouver une infrastructure, à créer une infrastructure bizarre, particulière, auquel on n'avait pas pensé avant, pour pouvoir contourner les mesures qui ont été mises en place.
Et on est plus.
Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus nombreux, mais... Le problème, c'est même pas une question d'homme, c'est une question de motivation. Au bout d'un moment, on va leur coûter trop cher. Et donc, ils vont arrêter. C'est tout simplement là. C'est pour ça que la course à l'armement a s'arrêté, parce que les systèmes mis en place par AREA, par ANSI, etc., coûtent quand même quelques millions d'euros. Alors, effectivement, c'est souvent fait, oui, comme quand la France vend des Rafales ou autre, oui, alors on va faire des ristournes parce qu'on veut des alliances avec ce pays, etc. Mais il y a un moment où ça sera plus rentable. Parce que c'est tout le temps inefficace, puisque eux, quand ils montent d'un cran, on a déjà trois coups d'avance. Donc voilà, il y a une course à l'armement, mais elle va s'arrêter par faute de combattants, je pense, assez rapidement. Parce que Blue Coat a très mal vécu le fait qu'on les ait exposés en disant « Oui, bonjour, vous avez des serveurs là-bas, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils ont commencé à faire « Non, c'est pas vrai, on n'en a pas. » Alors que ce sont quand même des appareils avec des numéros de série uniques, avec des numéros de licence uniques, qui se mettent toujours automatiquement en allant taper sur les serveurs Blue Coat. Donc Blue Coat savait forcément qu'ils avaient des appareils à eux en série. Et ils le savaient même tellement bien que quand on leur a montré ça, ils ont effectivement en 3 jours résilié les licences des appareils Blue Coat utilisés. Voilà. Et après, pour discuter de ça, à la base, c'est Comix, ça vient de Suède. C'est un groupement d'activistes politiques qui s'est créé en réaction au paquet télécom pour pouvoir discuter, faire des propositions aux députés européens au niveau du paquet télécom. Donc à la base, nous, on est un groupe de pression. Citoyens ou autres, on fait beaucoup de choses, on fait de la communication, on fait agence de presse, on a toujours nos interfaces, on fait la publication de news pour la Syrie, parce que les Syriens peuvent pas forcément les publier eux-mêmes,
On essaie de discuter avec les médias, avec les députés, avec les représentants élus, pour pouvoir discuter gentiment et tranquillement, parce que c'est pas la peine de s'écharper, ça sert à rien. Voilà, on essaie de faire avancer les choses comme on a envie, dans les directions qu'on a envie. Alors, on est un peu tous hyperactifs, donc on part là, puis tout d'un coup, oh, c'est super là-bas. Ça peut être un peu difficile à suivre vu de l'extérieur. On n'est pas du tout dans un process décisionnel. On n'a pas de conseil d'administration. On a un groupe d'opérateurs qui sont bêtement les gens qui ont mis les serveurs en commun et qui doivent gérer ces serveurs. Et après, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. C'est le principe de la duocratie. Les gens font des choses. Et voilà, ceux qui font des choses sont contents de les faire et ils les font. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a, en même temps qu'on a des opérations de soutien à Occupy Wall Street, on est nous sur OPCRIA, il y a Strezenmi qui continue de tourner, on a nos wikis qui se remplissent les uns après les autres, on a le Blue Cabinet qui s'est créé il n'y a pas longtemps pour pouvoir suivre un peu tous ces industriels qui vendent des outils numériques qui servent à censurer et à filtrer. On fait plein de choses parce que on est plein et qu'on a envie de faire plein de choses, donc on les fait, on se pose pas la question est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on a le droit de le faire. On le fait.
Et pour revenir à la question de l'échelle européenne, le Parlement a pris une décision il y a quelques mois qui visait précisément la vente de matériel de surveillance. Donc il y a des choses qui sont prises dans cette voie-là. Pour la question de la neutralité, je pense que notre présence ici démontre qu'il y a une ouverture au niveau de la Commission. Et ce que je soulignais simplement, c'est que pour nous, en tant que techniciens, en tant que personnes qui vivons ça, on est persuadé, on le sait que techniquement, il faudra bien qu'on y arrive un jour ou l'autre. Et ça ne va pas assez vite à notre goût. Et simplement ça.
Non, et mon propos n'est pas de vous dire dormez tranquille, les choses sont bien. Au contraire, il faut, et c'est ça le débat. Et s'il y a le going back, ça c'est pour entendre tous les signaux. Et c'est sûr qu'on sait très bien qui est contre. Et puis donc il faut que ceux qui sont pour s'expriment et n'attendent pas que automatiquement ça se transforme, que c'est en faisant que ça va. Que ça va jouer.
Une question?
Oui, enfin, vous avez déjà à moitié répondu. Je voulais d'abord énormément vous remercier et vous féliciter de cet engagement citoyen, parce que c'est vraiment quelque chose qui moi, me touche personnellement en tant que citoyenne engagée dans d'autres causes. J'ai des enfants qui ont l'âge de commencer à surfer, donc c'est vrai que j'étais aussi bien interpellée par votre notion de filtrage. Et je voulais savoir personnellement, qu'est-ce qui a fait de vous un activiste? Comment s'est germée cette petite révolte contre l'injustice?
Pas tellement une révolte, en fait, c'est juste qu'on fait des trucs super fun qu'on peut pas faire en entreprise, qu'on peut pas faire ailleurs. On est sur OPCRIA, on est 4, 5, 6 maximum, et on embête un gouvernement entier. On permet à 150, on est 6, et avec nos petits moyens, parce qu'on n'a pas de structure, donc on n'a pas de financement, mais tout, c'est que des moyens perso qu'on investit, du temps et 3, 4 serveurs qu'on trouve un peu à gauche, à droite. Et avec ces 3, 4 serveurs, avec cette bonne volonté, on permet à quelques Syriens, effectivement pas tous, pas l'ensemble de la population syrienne, mais à suffisamment de Syriens pour pouvoir communiquer, pour pouvoir toucher les médias. Je ne veux pas dire qu'on se marre tous les jours non plus, il y a vraiment des jours pas drôles, quand on n'a pas de nouvelles de certaines personnes pendant plusieurs jours, c'est jamais super, super fun. Mais on fait ça parce que on est curieux. C'est vraiment le hacker, quel qu'il soit, je pense que personne ne pourra me contredire, c'est quelqu'un qui est curieux. Quand on voit un micro, on dit comment ça marche, on le démonte, on commence à attraper un tournevis, à regarder comment c'est fait dedans, à essayer de comprendre son environnement pour pouvoir être mieux dans son environnement. Donc nous, notre environnement, c'est le monde numérique, comment il interagit sur le monde réel, donc on essaie de comprendre les interactions entre les deux, de les analyser, de créer nos propres interactions, on fait des expériences, on fait des expérimentations, on bricole, on bidouille. Puis un jour on rencontre une personne, puis deux, puis trois, puis on débarque, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
Et donc,
il y a un an et demi, moi j'étais pas dans Télécomics.
Et je crois que notre action politique résulte de ça. À la base, je pense pouvoir parler pour toi aussi, nous sommes juste des citoyens curieux, et comme on démontait le grippin, on a voulu un peu démonter la démocratie, voir comment ça fonctionnait. On s'est rendu compte que ça pouvait être amélioré et on essaie d'y participer.
Des questions encore?
Non, j'ai juste une chose à dire par rapport à toute la question de la pédopornographie, etc., au niveau des discussions sur le filtrage. C'est toujours un argument qui revient très très fort. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans les médias. Donc, si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, en fait, il y a en Allemagne une association d'anciennes victimes d'abus sexuels, faite par des pédophiles, qui s'appelle Mogis, qui milite et qui fait du lobbyisme au niveau du Parlement européen pour dire eux-mêmes qu'ils ne supportent pas le fait qu'on se serve parfois de leurs propres problèmes personnels, de leur vie privée, pour instrumentaliser une lutte qui, eux au moins, ils ont cette impression-là, qui dépasse ce simple cadre-là. Et qu'on voit très très souvent qu'en fait ça dépasse. Quand on voit des processus de filtrage et qu'on voit les listes de sites qui sont bloqués sur, soi-disant, des sites pédophiles, on voit qu'en fait, il y a parfois des blogs qui parlent de pédophilie, qui critiquent la pédophilie, etc., qui sont bloqués aussi. Il y a eu le cas en Serbie, etc. Donc, et au niveau de... On peut parfois avoir l'impression que ces associations-là militent souvent contre, un peu négativement, contre des lois négatives, etc. Mais une association comme la Quadrature du Net, eux, ils disent clairement, une fois qu'on a réussi, on aura réussi à éviter ACTA au niveau du Parlement européen, ils disent, on va venir avec des propositions positives, avec des propositions de lois positives pour la protection des droits civiques sur Internet, et donc le combat. Tout ça va continuer. Donc c'est pas simplement, ils réagissent pas contre, il y a aussi quand même une démarche assez positive.
Dernière question, je crois qu'on va devoir clôturer. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Ouais, on peut nous contacter, nous on est là encore.
Thank you.